C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Comme chaque jour, nous allons vous parler ici de football. Et d'abord évoquer les Citizens, vainqueurs du derby mancunien. Se sont-ils assurés du titre de champion de Premier League? Ces joueurs de Manchester City qui ont un point d'avance désormais sur Liverpool qui sont en tête du championnat. Alors pour rester champion, il leur faudra remporter leurs 3 derniers matchs. Et les Reds de Liverpool ont-ils eux perdu au terme d'une saison pourtant exceptionnelle? Manchester United vaincu à Old Trafford a-t-il perdu lui plus qu'un derby? Paul Pogba a-t-il déjà d'ailleurs la tête ailleurs alors que la troisième place semble aller très très bien à Tottenham? Vous arrivez de Manchester, bonjour Salim Bongali.
Hello Annie, bonjour
Hello.
À tous.
How are you?
Fine.
Alors
tired
comment c'est
fine.
Ouais, comment
vous
c'était,
avez l'un et l'autre un accent absolument pathétique.
Old Trafford, comment c'était?
C'était froid.
Froid? Oui. Ah bon?
Il faisait froid, je vous confirme.
Ouais, bon, c'est le nord de l'Angleterre,
c'est ça.
Aussi. Hein. Un 13e titre de championne pour les Lyonnes de Lyon. Un nouveau sacre et une sacrée saison sans aucune défaite. Les filles de l'OL dominent le championnat de France depuis 2007. Qui pourrait donc contester leur règne l'an prochain? Peut-être des Parisiennes, Dominique.
Vrai qu'elles se réveillent alors, Annie. Hein.
Bonjour. Ouais.
Elles sont en forme comme vous. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour. La Guinée et le Cameroun, finalistes de la CAN des moins de 17 ans au terme de demi-finale, sans aucun but. Mais une nouvelle fois, la compétition est aussi en proie à des rumeurs de tricherie sur l'âge de ces joueurs. La polémique est quotidienne et vous allez vous en faire l'écho. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour
vous
à tous.
Vous descendez de l'avion, pas de Manchester, mais de
Dar es Salaam. Alors là, je peux vous dire une chose, c'est autrement plus chaud qu'à Old Trafford.
Mais j'espère.
Et on peut dire quand même de ce pays-là, la Tanzanie, franchement, c'est un peu le théâtre des rêves parce que c'est magnifique.
Oh. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Olivier Pron, bonjour, on a déjà entendu votre voix.
Bonjour Annie, je vous préfère quand vous parlez en brésilien.
Oui, hein, ça, c'est possible aussi. Radio Foot, c'est parti.
Bernardo Silva. Shaw is going backwards. Bernardo Silva scores. Bernardo Silva is magic. This is Leroy Sané for Manchester City, who have a two-goal lead at Old Trafford. Again, City, top of the league again.
Les champions en titre seront-ils donc encore champions de la Premier League en mai prochain? Eh bien, les joueurs de Pep Guardiola ont hier sans doute posé une main sur la couronne qui attend le vainqueur 2018-2019 en remportant à Old Trafford le derby mancunien, un score de 2-0. Manchester City qui prend donc la tête du championnat, cette fois plus de matchs d'avance. Cette victoire donc contre United était-elle, Salim Bongali, une victoire logique, évidente, écrasante et surtout sans doute convaincante?
C'est vrai que 2-0, on se dit pas que c'est forcément écrasant, pourtant dans les faits, alors en première période, j'essaie de réfléchir, est-ce que Ederson a réussi à faire une parade en première période? Je ne suis même pas sûr, et en seconde période, pas beaucoup plus. United n'en a pas eu des opportunités. En fait, United a joué sur une chose, l'intensité, et au final, en première période, ça a plutôt bien fonctionné, puisque ça a quand même un peu gêné cette équipe de City, et puis City a simplement été patiente, une formation patiente, qui en seconde période s'est dit tout simplement que à un moment donné, ça allait pas tenir en face, et effectivement, il y a eu des changements à un moment donné. Fernandinho qui sort, qui n'est pas blessé, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire sur l'instant, il n'est absolument pas blessé, mais il veut absolument, Guardiola, faire rentrer Leroy Sané, donner de la vitesse à son jeu, et 30 secondes après, Leroy Sané qui rentre, mais Bernardo Silva qui lui est replacé, et le Portugais qui marque, c'est le talent, la vitesse, et au final, la tranquillité de City, c'était certain que City allait gagner, au final, objectivement, je pensais avant le match que non, que United allait avoir une réaction d'orgueil, ils l'ont eu sur 45 minutes, pas sur 90.
Dominique, c'est aussi le couronnement, finalement, d'un cheminement pour Manchester City.
Oui, ils vont sans doute enlever le championnat anglais. Après, le football par nature est imprévisible, mais là, j'avais vraiment aucun doute sur le fait que Manchester City allait gagner face à une équipe d'une faiblesse absolue quand même, United, qui en avait pris 4 à Everton la semaine dernière. C'est pas un exploit qu'a réalisé City. On peut pas dire bravo, alors c'est le derby, c'est important. Non, c'est marrant, c'est Liverpool qui voulait être champion d'Angleterre depuis 30 ans, et puis ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions, et Manchester le championnat, et pas Liverpool. Bon bah c'est le destin, c'est comme ça. C'est bravo Guardiola, parce qu'il est très critiqué à cause de son élimination en Ligue des Champions face à Tottenham. C'est pas rien de gagner la Première Ligue, c'est un championnat très disputé, c'est pas le meilleur championnat du monde. Pour moi c'est la Liga, c'est la championnat espagnol, mais c'est quand même très fort.
Est-ce que ça leur permet du coup peut-être Hervé aussi à ces City de se concentrer sur un seul objectif?
Ah ben oui, de toute façon, il n'y a plus que ça. Mais ce qu'il faut noter quand même, et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez Liverpool, deuxième du championnat, ils ont 88 points. C'est-à-dire que c'est phénoménal sur une saison en Angleterre.
Ils pourraient finir à 97, Liverpool.
Ils pourraient finir à 97 sans être champion. Ce qui est incroyable, ce qui veut dire que Liverpool a eu un rythme phénoménal, il n'y a pas d'autre mot. Ils n'ont jamais eu autant de points dans leur histoire en Première Ligue. Et d'un autre côté, vous tombez sur des extraterrestres. Alors, la difficulté pour City, et qu'on le veuille ou non, malheureusement pour Guardiola, il a un peu jugé aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on l'attendait en Ligue des Champions. Il est quand même éliminé par une équipe qui n'a pas fait un recrutement cet été. Lui, il a eu des milliards et des milliards depuis des années, quand je dis des milliards de francs CFA, des centaines de millions d'euros, effectivement, et tout ça, il a dépensé. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a quand même été éliminé par Monaco, et City, à Monaco, c'est pas rien. Tottenham, qui est quand même loin d'être l'équivalent de Manchester City, ça fait beaucoup.
Oui, il a fait des huitièmes de finale. Essentiellement, il peut quand même réaliser un triplé qui sera pas anodin. C'est pas la Ligue des Champions, mais il a encore la finale de la Cup le 12 mai face à Watford.
Et lui dira toujours quadruplé d'ailleurs, parce qu'il y a eu le Community Shield en début de saison, donc l'équivalent du trophée était champion. Et lui parle de quadruplé d'ailleurs, et quelques semaines, il parle de quintuplé potentiel.
Elle est déjà dans la poche, il y aura la Cup.
Il y aura Jean-Michel Aulas,
il y aura le championnat. Mais vous parliez les uns et les autres de cette bourre que se tirent en tête City et Liverpool, soulignant le nombre de points de Liverpool. Comme souvent, un tweet hier soir de Gary Lineker qui dit Manchester City, je vous le traduis à peu près en anglais de français à anglais, je vous l'ai pas fait en anglais.
Quoi, Lineker l'a pas écrit en français?
Manchester City est une équipe sensationnelle. Le fait que Liverpool ne soit qu'à un point est quelque chose de fantastique. Liverpool est une équipe exceptionnelle. Le fait que City soit un point devant est quelque chose d'énorme. Quelle saison!
Voilà.
Quelle saison!
Vous parliez de chiffres, de records, de total de points, mais il y a aussi un total de buts. Hier, Manchester City a aussi marqué les esprits avec ce record de buts dans une saison en championnat.
89.
Salim.
C'est ça, 89, et puis surtout, toutes compétitions confondues, on en est à 157, si ma mémoire est bonne, pour City cette saison. C'est effectivement un record dans les 5 grands championnats. Oui, City est
160 pour l'Ajax, je crois.
Et 5 grands championnats. Oui. Voilà, c'est pour ça, mais vous avez raison, l'Ajax, mais on l'a marqué davantage. Oui. Mais c'est vrai que voir City à ce point-là, après, encore une fois, offensivement, l'inquiétude, elle n'est pas là, et on le voit, et Dominique l'a très bien évoqué, on sait que ça va marquer des buts. Après, c'est plus défensivement et donc dans les grandes compétitions que cette formation est jugée. Et quand on a vu ce qui a été réalisé en Champions League, c'est là au final, c'est malheureux, hein. C'est un exploit, encore une fois, potentiellement d'être champion, c'est pas encore terminé. Et pourtant, on va rester là et on va se dire, ah, ils ont gagné la Cup, ils ont gagné la Champions League, ils ont gagné la Première Ligue, la Coupe de Ligue, mais ah, ils ont été éliminés en quart par Tottenham en Champions League. Ah,
et
la saison, elle est bien, mais.
Mais on se retrouve avec cette fameuse théorie de dire, en gros, Guardiola a remporté la Ligue des Champions avec Messi. Depuis, il allait avec le Bayern, il ne l'a pas eu. Avec Manchester City, il ne l'a pas eu. Mais il faut surtout mettre en avant, et ça pour moi c'est capital, c'est le jeu pratiqué. C'est pour ça que c'est un génie du football, comme entraîneur, c'est un génie. Alors qu'il soit éliminé par Tottenham ou pas, moi c'est pas mal. Ailleurs, c'est pas mes oignons, c'est pas mon argent. Mais en revanche, ce qu'on peut noter, c'est le jeu qui a été pratiqué depuis qu'il est à Manchester City.
Il a changé la manière de jouer de l'équipe.
22 buts encaissés seulement, on parle de 89 buts marqués, mais 22 encaissés, même si en Ligue des Champions, on en a pris un peu plus, c'est quand même. Peu en maintenant quoi, 35 matchs.
Et même Liverpool a encaissé moins, 20 buts.
Ouais, 20 buts. C'est la deuxième défense, City, la première attaque, évidemment.
C'est justement parce qu'il accepte un déséquilibre dans son équipe avec un jeu énormément penché vers l'avant, qu'il y a des soucis, qu'il peut en prendre 3 en quart de finale à domicile contre Tottenham, parce que en fait, s'il prend pas ses 3 buts, il passe largement. Donc ça, c'est de la palissade, mais 3 buts, c'est rédhibitoire. En Ligue des Champions, à domicile, c'est impossible. Vous avez quasiment aucune chance de vous qualifier. surtout qu'ils avaient perdu 1-0 au match aller. Donc c'est, mais ça dit tout de ce qu'est Guardiola, c'est-à-dire un théoricien aussi du jeu, qui invente des nouvelles formes permanentes, qui joue qu'avec un seul milieu défensif, on va dire, de formation ou de métier. Et donc, moi, je suis comme Hervé, je trouve ça magnifique, quoi. Après, ça peut ne pas marcher. Et la Ligue des Champions, il y en a qu'un qui le gagne chaque année, hein. Si on juge tous les autres en disant, il y en a un qui est bon et les autres sont mauvais, moi, les derniers, Klopp, il a perdu la finale de la Ligue des Champions, et ben, pour moi, ça reste un super entraîneur. Enfin, parce qu'il a perdu contre le Real Madrid, que Jürgen Klopp
n'est
pas...
C'est incroyable le nombre de fois où ça a été dit, ce que vous venez de dire, depuis 10 ou 15 jours, et on est bien d'accord là-dessus. Si on devait juger, dire, toi, t'es un bon entraîneur parce que t'as gagné la Ligue des Champions, donc tous les autres sont des brels. Ça fait un paquet de brels dans l'année.
Oui, de toute façon, à la limite, il l'a gagné au moins une fois, et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de la gagner plusieurs fois.
Et puis, si on va aller plus loin, Messi, il l'a gagné combien de fois depuis son départ?
Zéro.
Voilà.
Exactement. Il l'avait gagné deux ou trois fois.
Salim.
Juste pour rebondir sur.
Il l'a gagné une fois, je crois.
En 2015.
En 2015.
Il y avait
encore une fois.
Juste pour rebondir sur vos propos par rapport au côté théoricien. Effectivement, hier, j'étais collé au banc de City, en fait. Vraiment, donc Guardiola était à un mètre de moi. Avec son fameux pull.
Il vous a regardé, il n'a pas voulu vous faire rentrer.
À un moment, nos yeux se sont croisés.
C'est ça.
Il vous a demandé une photo d'Annie Gasnier, n'est-ce pas?
Le numéro de téléphone, même.
Mais c'est à un moment, il s'est retourné vers. Ouais. Salim lui a dit. Quel changement.
Et il a regardé, je lui ai dit, Leroy Sané. Et il m'a écouté, il a marqué 30 secondes après.
Bien sûr.
Mais par rapport au côté théoricien, c'est vrai que. En fait, c'est un spectacle à lui tout seul, Pep Guardiola, comme certains entraîneurs, Antonio Conte par le passé, en Première Ligue également.
Klopp,
ils vivent vraiment leur match, ils restent debout tout le temps, quasiment tout le temps, ils reviennent à peine sur leur banc, sinon ils restent tout le temps debout, à parler à leurs joueurs. À un moment donné, il y a Emerick Laporte qui avance, mais vraiment de 5 mètres, pas plus, hein, la balle est loin devant, il avance de 5 mètres, et là, Pep Guardiola, alors que la balle est aux abords de la surface de United, il gueule sur Emerick Laporte, recule, juste de 5 mètres, alors que la balle est loin de devant, la balle n'est pas du tout dans la zone du français. Il a parfois des fixettes, en tout cas des demandes précises envers ses joueurs. Ses joueurs doivent être dans telle position,
en fait,
avec un pied d'une manière positionnée, de manière précise, avec un regard sur le jeu. Enfin, il est concentré sur tous les joueurs à chaque fois.
J'en connais un autre qui fait ça pas très loin à Londres. Bon, hier, il jouait pas à Londres, hein, il jouait à l'extérieur, il en a pris 3, et ça fait plusieurs années qu'il en prend régulièrement à l'extérieur.
Et lui, il a gagné 3 Europa League aussi.
Oui, c'est pas très difficile. Moi, je vous parle de gagner des championnats de France contre Monaco, je vous parle de gagner. Hier soir, il a perdu à
Wolverhampton.
Ah, voilà,
il ne pardonnera jamais, évidemment.
Non, mais il faut le dire.
Il
faut le dire.
Je voulais venir après, Dominique, parce que là, on en était encore.
Je voulais qu'on l'oublie pas dans le menu, quoi.
Vous inquiétez pas.
Mais avec un effectif qui est bon. Bon, mais pas très.
Mais vraiment, il y a la gâchette Aubameyang, on va pas gagner à Wolverhampton.
J'insiste encore sur le côté fixette.
Aubameyang était blessé.
Sur le côté fixette de Guardiola, c'est impressionnant à chaque fois. Il veut tout regarder, tout contrôler, et ses joueurs lui obéissent tout le temps pour au final le résultat qu'on a pu avoir encore hier.
Alors, il reste 3 matchs à chacune de ces deux équipes. Qui est peut-être favori ou qui reçoit et qui va jouer à l'extérieur? Olivier, vous avez votre petite liste.
Je pense que le favori, c'est forcément Manchester City qui reste d'abord sur 11 victoires de rang en Première Ligue. C'est quand même pas mal, 33 points sur 33. Manchester City va jouer à Burnley, qui est 15e, va recevoir Leicester, qui est 10e, et ensuite va aller à Brighton, 17e. Il y a quand même plus compliqué. Et pour Liverpool.
Mais Leicester, on s'en souvient, ils aiment bien.
Ils ont perdu avec le PL.
Exactement.
Oui,
chez eux en plus.
Leicester était meilleur à l'extérieur. Ce sera à l'extérieur. C'est vrai que ce sera à Manchester City. Mais enfin, bon, Leicester, on peut pas dire que ce soit une réussite, même depuis le départ de Claude Puel. Liverpool a pas un programme plus compliqué. C'est pour ça qu'on a tendance à se dire que 3 matchs, 3 victoires, peut-être pour les heures. Je termine juste avec le parcours de Liverpool, qui ira à Huddersfield. C'est-à-dire, non, qui recevra le dernier, Huddersfield, ensuite qui ira à Newcastle, qui est 13e, et qui finira avec Wolverhampton, qui est 7e. Ils ne sont pas des dernières lignes droites très compliquées pour l'une ou l'autre équipe.
Mais il y a Barcelone.
Ça.
Oui, pour Liverpool, bien sûr.
Oui, ça change tout.
Je vais dans le sens de City. Non, mais
c'est ça.
Chacune des deux équipes devrait remporter ces 3 matchs et City sera champion. City a un point d'avance aujourd'hui. Et effectivement, Barcelone ne peut que compliquer la tâche à Liverpool et pas à City.
Ce qu'on peut espérer, peut-être, pour Liverpool, c'est qu'à Brighton, parce que Brighton, on sait pas combien ils seront classés au moment de la dernière journée. Ça peut être une interrogation. Ce qu'ils peuvent être limite d'être barragistes, de la lutte pour le maintien. Donc, on sait jamais. Si jamais ils arrivaient comme ça, il faut absolument une victoire. victoire ou même un match nul, ne serait-ce qu'un match nul, sur un match, vous savez, tout est peut-être possible.
Mais Salim, les Reds peuvent peut-être aussi s'en vouloir de pas avoir, de pas être devant et de pas avoir de l'avance. On se souvient qu'à un moment, ils ont eu jusqu'à 6 ou 7 points.
Et même lorsque City a mandé avait un match en retard, ils avaient 10 points d'avance sur Manchester City. Donc, on peut évoquer effectivement les performances de Liverpool, les performances de City, mais Liverpool ne peut pour le coup se critiquer que s'auto-critiquer
soi-même.
Vraiment, un match nul à domicile face à Leicester, un match nul à West Ham, il y a eu d'autres résultats de ce genre où clairement c'est la faute de Liverpool lors du derby
et
face à Everton,
0-0
également. Il n'y a eu qu'une seule défaite face à City, justement, lors du début
de la saison.
D'ailleurs, on connaît l'intérêt et l'utilisation de la technologie, notamment grâce à la goal line technology qui est utilisée en Angleterre. On se souvient lors du City Liverpool, il y avait un but qui était pas entré à juste titre pour 1 centimètre. Il y aurait pu avoir 2-2. Il y avait eu finalement 2-1 puisque le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne. Comme quoi, pour 1 centimètre, vous ne pouvez pas.
Si on revient sur tous les matchs, on verra aussi pas mal de petites choses qui sont passées à la dernière seconde. Rappelons-nous la victoire de Liverpool contre Everton. Ça se joue en toute fin de match sur une erreur monstrueuse du gardien. Donc tout ça fait qu'à un moment sur une année, c'est...
Surtout sans vouloir au match aller contre City qui est 0-0. C'était une belle purge.
Je vous confirme, j'y étais.
Ça leur rajouterait 2 points, ça en enlèverait 1 à City. Voilà. C'est fait, ils sont
champions. Après, quand on compte, là où on a perdu, là où on a gagné.
Oui.
En tout cas, il y a un homme qu'on n'a pas encore vraiment cité, mais qui hier soir s'est illustré, c'est Bernardo Silva. Alors, vous le disiez quand sort Fernandinho. En tout cas, il a brillé avec les Sky Blues et l'ancien Monégasque. Eh bien, c'est vers lui que se sont dirigés hier soir les éloges de Pep Guardiola.
Bernardo Silva réalise une saison incroyable, vraiment incroyable. Mais il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de son but. Il joue comme cela depuis le début de la saison. C'est un joueur de classe mondiale. Chacun de ses matchs est un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Bernardo est un type joyeux. Il peut jouer à gauche ou à droite. Par exemple, contre Swansea, il a joué en tant qu'ailier gauche. Il a marqué et délivré une passe décisive. Le but de Sergio Aguero était entaché d'un hors-jeu. Puis, il a joué en milieu de terrain défensif. Il peut aussi jouer en milieu offensif. C'est un joueur tellement intelligent. Et il a une éthique de travail. C'est un battant. Il est un des meilleurs joueurs d'Europe. Oui, c'est l'un des meilleurs.
Que d'éloge a raison, on aurait envie de dire, mais en même temps, Bernardo Silva, c'est le champion discret, on a l'impression. C'est-à-dire, il est toujours là, il est toujours dans les bons coups, et en même temps, c'est pas le joueur dont on parle autant que d'autres.
Ah ben non, c'est sûr que lorsque
alors,
vous êtes...
sur la scène de City, pardon, mais aussi sur la scène même européenne.
Bien
quoi,
sûr, mais
on l'oublie de le citer.
C'est bête ce que je veux dire, mais c'est par rapport à son physique. Il est petit, entre guillemets, il dégage pas un charisme absolu quand on l'observe, quand on le voit. Là où il y a d'autres milieux de terrain, d'autres attaquants qu'on observe et qu'on voit beaucoup plus facilement, qui marquent peut-être plus que Bernardo Silva évidemment. Puis quand vous évoquez City, il y a d'autres joueurs qui vous viennent à l'esprit: Sterling, Aguero, Kevin De Bruyne, même et d'autres joueurs également. Bernardo Silva n'est pas le premier joueur auquel on pense, mais on en parlait en off avec Hervé Penaud. La saison dernière, il a pris son temps, il avait marqué 9 buts toutes compétitions confondues, donc il montait en puissance. Cette année, 13 buts toutes compétitions confondues, et puis des moments clés à chaque fois pour Bernardo Silva. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans l'équipe type de la saison de la part des joueurs. À juste titre, Bernardo Silva est devenu un élément clé et de City et même de la Premier League.
On a tendance à l'oublier, hein, Dominique.
Non, je trouve pas. Mais non. Il y a eu une acclimatation monégasque, c'est-à-dire que Jardim fait souvent ça. Une première saison, alors ça a pas toujours marché. Hein, Tielemans, par exemple, ça a pas marché. Mais souvent comme ça, il y a une année pour un peu s'acclimater, découvrir les partenaires, découvrir le coach, tout ça. C'est un peu la première année de Bernardo Silva. Et une deuxième pour exploser. Bah là, on est en plein dans l'explosion, et c'est normal qu'il soit dans l'équipe type de la première ligue des joueurs. Donc d'abord, je trouve qu'on l'oublie pas, parce que c'est un joueur qui a été acheté 50 millions d'euros, c'est quand même pas rien, et qui aujourd'hui a une valeur marchande encore plus importante, quoi, peut-être de 75 millions d'euros. Donc non, c'est un joueur qui sera très très demandé bientôt. Il est jeune, il a 24 ans.
Ouais,
non, mais c'est vrai que les connaisseurs le savent, mais c'est plutôt sur la scène.
Le grand public, bien sûr.
Voilà, pour le grand public, on oublie de citer Bernardo Silva, alors que c'est un élément essentiel, c'est un champion d'Europe, hein, si je me trompe pas, avec le Portugal.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on a l'impression, si on veut pas parler des grands milieux de terrain aujourd'hui, alors lui, il est entre les deux. Il est aussi attaquant, milieu de terrain très offensif, voire quasiment ailier. Mais c'est vrai que c'est pas le premier joueur qui vient à l'esprit. À la rigueur, quelqu'un va parler plus facilement. On parlait du grand public de Pogba, qui est d'ailleurs dans l'équipe type de l'année.
Vous m'avez volé ma transition.
Alors là, je suis désolé. Eh ben, je vous la redonne.
Calme-toi, Penaud.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que, justement, on a un joueur dont on parle peu et qui pourtant excelle sur un terrain, c'est Bernardo Silva. Et puis, de l'autre côté, alors on a dans ces diables de mancuniens, un certain Paul Pogba. Paul Pogba, hier, vous l'avez vu sur le terrain ?
Il a joué? Ah,
je crois qu'il est passé la même piscine.
Je crois qu'il a réussi un dribble à un moment donné.
En tout cas, écoutons, parce que l'ancien Red Devil, qui a la dent dure, Roy Keane, a eu des propos assez acerbes contre notre Paul Pogba.
Je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit. Ça n'a aucun sens. Je ne pense même pas que lui-même croit en ce qu'il dit. Il parle du fait d'être un coéquipier modèle. Mais si vous voulez être un bon coéquipier, vous devez revenir pour défendre. Ce mec est un garçon talentueux. Mais nous disons la même chose depuis très longtemps. Combien de fois en match nous l'avons vu ne pas courir du tout? Il parle de langage corporel, mais il lève les mains en l'air à chaque fois. C'est un gros problème pour United. C'est un joueur qui n'est plus jeune, qui a participé à de grandes compétitions et a remporté de grands trophées. Mais je ne pense pas qu'il donne l'exemple, d'après ce que je vois. Le langage corporel et la fierté qu'il a mentionné, je ne les vois pas dans ses performances.
C'est trop dur contre Paul Pogba, Salim ?
C'est trop dur contre le Paul Pogba du début de l'ère Ole Gunnar Solskjaer, puisque Pogba était son meilleur joueur, très clairement. Mais aujourd'hui, nous sommes en fin avril, et c'est très clairement normal. C'est mérité. Paul Pogba n'est que l'ombre du champion du monde, n'est que l'ombre de celui qui a été si bon en janvier-février. Paul Pogba plonge, comme l'équipe de United d'ailleurs, hein, 9 matchs, 7 défaites sur les dernières rencontres. Et Pogba est invisible, aucune incidence sur le milieu de terrain. Et quand lui est moins bon, d'ailleurs, au final, ses coéquipiers le sont aussi.
Et comment tu expliques qu'il ait été élu dans le 11 des joueurs?
Alors déjà, il faut rappeler que ce vote en question a eu lieu il y a de très nombreuses semaines, au final, hein, d'ailleurs. Et puis, n'oublions jamais que... Alors, souvent, j'en parlais hier, pour vous dire la vérité, avec William Gallas, puisqu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi Paul Pogba serait dans cette liste, qui a été communiquée officiellement ce matin. Et il me disait, mais Salim, tu sais... Nous, quand on est sur le terrain, il y a des ressentis que journalistes, téléspectateurs, fans, vous avez pas. Nous, on le voit tous les jours à l'entraînement. Nous, on voit ce dribble qu'il réussit à faire sur le terrain. Ben, nous, on a une autre sensation qu'on peut avoir que journalistes, téléspectateurs, vous pouvez ne pas avoir. Donc, ils me disent, le regard des joueurs,
il est meilleur qu'il ne paraît.
Exactement.
Ce qui prouve qu'il faut jamais se fier aux joueurs. Enfin, pas jamais. C'est pas toujours se fier, loin de là.
Pas toujours, exactement.
Pas se fier aux joueurs parce qu'en général, ils voient la petite étincelle, le petit dribble sympa. Il est capable de faire ça, mais ils regardent pas un match dans leur globalité, dans sa globalité. Et surtout, ils ne voient pas beaucoup de matchs parfois. Ils ne voient pas beaucoup de matchs parfois. Juste, ils rencontrent une fois, ils disent, il a été bon, puis ça s'arrête.
Tu sais aussi, Hervé, que ces équipes types, c'est souvent avec qui j'ai envie de jouer. Et c'est un joueur avec qui ils ont envie de jouer, donc voilà, parce qu'on connaît son potentiel.
Mais
son
Dominique,
potentiel ne s'exprime pas toujours.
Alors on connaît son potentiel, mais on l'attend souvent, ce potentiel. Je me souviens à l'Euro 2000, alors la Coupe du Monde 2014, puis l'Euro 2016, il y avait eu une fulgurance et tout. Il laisse toujours entrevoir quelque chose. En 2018, on le voit à la Coupe du Monde, mais on a l'impression quand même que le défaut de ce joueur, c'est l'irrégularité.
Mais il n'est pas là dans les grands rendez-vous déjà, parce que le match aller contre le Paris Saint-Germain, il passe complètement au travers, et il est suspendu au retour. contre Barcelone, il rate les matchs. Alors, il a été fantastique, je trouve, avec l'équipe de France en Russie. Je trouve qu'il a fait une Coupe du Monde magnifique. Salim parle du début de l'Ole Solskjaer, où il était bon, mais c'était contre des seconds couteaux du championnat. Donc, en fait, il y a aussi son transfert pour le Real Madrid, qui peut-être au Real Madrid qui le perturbe, ou qui peut-être rentre en ligne de compte, parce que c'est vraiment un joueur qui peut bouger, qui va bouger. Il est avec Mino Raiola, c'est son intérêt à Mino de faire ça, il a toujours fait ça. Lui, il rêve de Manchester, c'est un des rêves de Real. Le Real, c'est un des rares joueurs sur lesquels il peut vraiment miser, puisque Neymar ne viendra pas, Mbappé ne viendra pas. Donc Pogba, il y a une chance historique, c'est clinquant, ça fait plaisir aux supporters. Il y a la réélection pour Pérez bientôt par les socios, donc voilà, il y a tout ça.
Oui,
c'est un joueur qui, malheureusement, au club, dans les grands rendez-vous, n'est pas là. Alors,
il sélectionne ses matchs, on a l'impression, là, il est plus concerné.
Oui, mais
du tout.
Je pense pas du tout
qu'il soit pas concerné par ce qui se passe à Manchester United.
Donc il est mauvais.
Il fait partie de ces joueurs. Non, mais attendez, parce que la difficulté pour un joueur, c'est justement la régularité.
Oui,
parce qu'être capable d'être bon sur certains matchs, il y a plein de joueurs qui sont capables de ça. Et lui le premier et d'autres. Et moi, pour l'instant, je suis un peu déçu de son profil de progression de carrière, pour tout vous dire. C'est surtout ça, moi, qui me gêne. Oui. C'est pas le fait qu'il s'en foute, parce que vous savez, il s'en fout pas d'être bon contre Paris Saint-Germain au match aller. Il est pas là. Il est pas là parce que parfois, il a un manque de concentration. Mais ce qu'il y a de plus difficile, moi, je dis souvent, mais dans le football, la concentration, c'est souvent ce qui fait la différence. Parce que vous avez la capacité, le talent, puis parfois, vous êtes incapable de vous concentrer, comme un étudiant qui serait capable de travailler dans une maths sup jusqu'à 2h du matin tous les jours, et puis l'autre personne, au bout d'une heure, elles peuvent plus se concentrer.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il était meilleur à la Juve.
C'est-à-dire que c'était peut-être... Dans un autre football, peut-être.
C'était plus dur, peut-être.
Mais il avait moins le poids des responsabilités.
Et peut-être qu'il était mieux entouré. Aussi, parce que c'est souvent ça aussi, vous êtes peut-être, bon ouais. quand vous avez des joueurs bons autour de vous. Et c'est la question au final, parce que ça sera après la question subsidiaire pour United, qui va devoir se renouveler à l'issue de cette saison. Il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir partir parce que cet effectif est moindre. Est-ce que Paul Pogba peut faire partie, je pense, de ces joueurs qui doivent partir pour relancer United et le réussir?
C'est possible. C'est ce que dit Roy Keane, revienne bon,
mais
espérons.
C'est étonnant d'ailleurs que, enfin, on a l'impression qu'entre Paul Pogba et Zinedine Zidane, on s'étonne que l'un ait envie de l'autre et que Zidane ait envie de travailler avec Pogba.
Pour vous, ça fait un moment.
Non, parce que ça fait un peu l'élève capricieux.
Zinedine, il connaît très très bien le Real Madrid. Il voit que Kroos et Modric ne réalisent pas toujours les saisons.
Ça, son effectif.
Et un effectif, ça se renouvelle, c'est comme ça.
Ce sera pas simple de manager Pogba, sans doute.
Zidane, pas sûr. Je pense que si Deschamps y est arrivé, je pense que Zidane aura pas de mal.
Je pense que Zidane a ménagé les joueurs autrement plus caractériels.
Je trouve que l'affiche
champion du monde, ils s'entendront.
Non, mais je trouve que l'affiche Pogba, Real Madrid, Zidane, je trouve qu'elle a de la gueule.
Ouais, mais quand vous avez un joueur, en plus, qui a été si dithyrambique sur Zinedine Zidane il y a quelques semaines, enfin, qui va avoir son champion du monde en face de lui, forcément, il y aura pas de soucis. Je pense pas qu'il y aura.
Et ce sera un autre football que Manchester United. Parce que là, le problème de Manchester United, c'est qu'il y a pas, entre guillemets, il y a pas beaucoup de jeux, que ce soit Solskjaer ou Mourinho. Il aura plus la balle, il aura plus de possession, il aura plus la capacité de faire des différences par sa passe, son élimination première. Donc faudra, et puis il sera plus souvent dans la surface de réparation. Faut voir.
Olivier, on y vient. Alors à cette équipe type, où se trouve Paul Pogba? Mais c'est le seul de Manchester United.
C'est le seul, qui ne soit ni de City ni de Liverpool, surtout puisqu'il y a 6 joueurs de City, 4 de Liverpool. Donc c'est assez cohérent. Et donc, comment s'appelle-t-il? Paul Pogba est le seul joueur de Manchester United, le seul joueur en fait en dehors des deux équipes de tête à pouvoir s'immiscer. Il y a un Africain évidemment, un seul.
Heureusement.
Sadio Mané, mais sinon on retrouve Ederson, le gardien de Manchester City, Aymeric Laporte. Ah non, il y a deux Français. Il y a Aymeric Laporte, et il y a Paul Pogba, il y a Bernardo Silva, et, je continue là uniquement avec les Citizens, Fernandinho, Sergio Aguero, Raheem Sterling, et puis du côté de Liverpool, Van Dijk, bien sûr, et puis Robertson, et Mané. En ce qui concerne le joueur de l'année, hein, on devrait le savoir dimanche ou lundi.
C'est ça, exactement.
Le joueur de l'année, la presse anglaise fuit un peu ce matin. On a l'air de dire, contrairement à ce qu'on espère tous, Van Dijk et deuxième Raheem Sterling. C'est-à-dire que Mané serait tout juste sur le podium, peut-être, mais en tout cas, pas dans les deux premiers.
C'est ça. Après, effectivement, ce serait pour couronner au final un défenseur, qui est un défenseur un peu à part aussi. Pour une fois, qui est un défenseur.
Quel défenseur?
Et quel défenseur? Il n'y a pas à rougir.
Pour une fois, qui est un défenseur
de l'histoire.
Totalement, et qui vraiment, tout le monde l'encense à juste titre. Donc, ce serait une première de voir un défenseur
anglais. Il manque pas un belge dans cette équipe.
Il manque peut-être un belge.
Vincent Kompany.
Eden Hazard. Il manque peut-être même
Salah.
Mohamed Salah. Il peut manquer, parce que si on parle des milieux de terrain, Ruben Neves, qui a été exceptionnel avec Wolverhampton tout au long de cette saison. C'est vrai que Paul Pogba, c'est le nom qui.
Il n'y a pas un joueur de West Ham.
Choque un petit peu.
Il n'y a pas Luke Hadding d'Everton.
On continue et on va voir des championnes ou écouter des championnes. Et les Lyonnaises ont mis fin au suspense. Avant la fin du championnat de Division 1 féminine, les voilà, les Lyonnaises donc de l'OL, qui ont remporté un 13e titre consécutif après leur victoire sur Dijon 4-0. Le championnat, elles le dominent depuis 2007. Quand je parlais de suspense, c'était évidemment pour rire. Les Parisiennes, elles ne sont pas trop loin, elles sont à 3 points, mais Lyon a encore gagné. Et c'est ce qu'explique Anna Egerberg, la Norvégienne, vous vous souvenez, elle a reçu le Ballon d'Or, le premier Ballon d'Or féminin récemment. Elle en est à son 5e titre avec l'OL et elle assure que ce n'est pas simple d'être champion tous les ans.
On a montré qu'il y a quand même un grand écart entre nous et elle, et c'est ce qu'on a envie de montrer dans l'avenir aussi, qu'on est là toutes les années et on laisse le foot parler, et c'est ce qu'on a dit pendant une semaine là, parce que c'est ce qu'on veut, et d'être championne année après année, c'est pas facile, mais on est capable.
C'est pas facile, d'essayer de damer le pion aux Lyonnaises de la part des Parisiennes, c'est ça, Dominique?
Je ne banalise jamais les titres de champion ou de championne de France. Je trouve que c'est toujours une difficulté, quelle que soit l'adversité.
Parce qu'on a en gros deux grandes équipes dans ce championnat.
Oui, oui.
Elles ont 59 et 56 points.
Mais j'entends
et
ça
ensuite,
pour le Paris Saint-Germain, hommes. J'entendais ça pour Lyon, quand ils ont réalisé 7 titres de suite au cœur des années 2000. Moi, je ne banalise pas. c'est, je dis bravo les Lyonnaises. Ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Il y a tout un travail, un investissement derrière. Il y a une politique menée par Jean-Michel Aulas depuis des années. Il a investi avant les autres. Il a été précurseur. On dit souvent que c'est le plus grand dirigeant français. Bah, c'est un exemple.
Alors sans doute, ça fait 13 ans donc 13e titre du moins qu'elles accumulent. Mais est-ce que ça dessert pas aussi finalement un peu le football féminin? Elles dominent la scène aussi européenne. Hein. Elles ont.
C'est pas de leur faute. Hein.
Non, je dis pas que c'est leur faute, mais sur 6 titres, elles en ont déjà gagné 4. Elles sont en passe de se qualifier pour la finale, peut-être. Est-ce que ça dessert pas finalement aussi qu'il y ait une telle domination et du coup un manque d'émulation, Salim ?
Alors peut-être, si vous parlez de football féminin français, peut-être, parce que c'est effectivement là peut-être qu'on peut se poser la question. Le problème de Lyon, notamment puisque c'est l'exemple qu'on prend, c'est un peu ce qu'on a en première ligue, là où les stars sont des stars étrangères. À Lyon, quand on observe l'équipe type aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, vous avez des joueuses françaises, mais beaucoup de joueuses étrangères. On a entendu encore Ada Egerberg. C'est le problème de Lyon qui est obligé d'aller prendre des joueuses étrangères, pardon, ou éventuellement les meilleures joueuses françaises. Et les meilleures joueuses françaises ne jouent pas toutes. Certaines restent sur le banc aujourd'hui et sont donc obligées d'aller dans des clubs moindres. On l'a vu avec pas mal de joueuses qui sont allées à Montpellier, à Bordeaux, au Paris Saint-Germain également. Et ces joueuses françaises, quand elles arrivent en équipe de France, au final, elles n'ont plus le même niveau. Alors vous allez me dire, ces dernières semaines, on l'a vu, il y a eu plutôt des bons résultats avec l'équipe de France. Mais malgré tout, je trouve que ça dessert l'équipe de France au final, parce que cette équipe de France a des joueuses françaises qui sont plutôt bonnes, mais pas excellentes, parce qu'elles n'excellent pas dans leur club en question, elles ne jouent pas à l'Olympique Lyonnais.
Hervé ?
Oui, mais moi je pense que malheureusement, le fait de gagner autant de titres, effectivement, si ça dévalorise pas, en tout cas, ça pose problème. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on a l'impression, en fait, en gros, il y a une équipe, une deuxième qui était le Paris Saint-Germain, donc pour Lyon ou pour le Paris Saint-Germain, il y a deux matchs dans l'année, c'est Paris Saint-Germain. En gros, ou Lyon. Et donc, effectivement, quand vous suivez le foot féminin, il y a trop d'écart. Alors, je comprends ce que veut dire Dominique, mais aujourd'hui, être championne de France féminine, en gros, c'est battre le Paris Saint-Germain. Il y a trop d'écart avec les autres équipes. En football, l'écart est beaucoup plus faible. Vous êtes capable, le Paris Saint-Germain, en football masculin, Paris Saint-Germain c'est a montré qu'ils vont, à la rigueur, ils jouent Dijon, ils vont pas gagner facilement 4-0 comme ça.
C'est quand il y a Unai Emery, ça.
Le football joué par les femmes s'appelle football aussi.
Oui, parce que vous avez dit le football.
Et oui, c'est
vous avez dit, parce que vous avez dit le football.
Vous dire football masculin.
Du football masculin, vous avez dit le football. C'est le même sport pour les deux.
Non.
C'est
juste que ça va un peu moins, monsieur Peugeot.
Je suis peut-être autour de cette table celui qui aime le plus le foot féminin.
Non, je crois que Salim vous bat.
Annie, vous allez dire les femmes.
Mais c'est vrai, là, Dominique le dit, effectivement, faut jamais ne pas applaudir devant un titre de champion. Malgré tout, l'écart financier est tel, alors non pas entre Lyon et Paris Saint-Germain, mais entre Lyon et les autres. On le rappelle, il n'y a pas si longtemps encore, la plupart des joueuses étaient semi-pro hein, dans les autres formations. Le PSG, les joueuses sont pro depuis 6 ans, simplement 5-6 ans de mémoire.
Ouais. Donc je pense que par exemple, le Paris Saint-Germain fait de la cosmétique avec le football féminin. Je pense qu'ils s'y sont mis parce que ça fait bien,
parce que c'est bien vu, pour
l'image. Et je pense que ça ne les intéresse pas. Et donc la concurrence avec Lyon, elle est fausse. Alors que Lyon, c'est comme Loulou ou Nicolas à Montpellier. Non, c'est quelque chose de auquel il croit.
Absolument.
Alors après, un bémol, on est forcément d'accord avec Salim quand il dit que beaucoup d'étrangères. On a des tas d'exemples dans le sport masculin qui montrent dans le rugby français, et dans le foot en Angleterre, combien le championnat est fort, mais l'équipe d'Angleterre nettement moins, et comment dans le rugby français le championnat est très coté, le top 14 et l'équipe de France, n'en parlons pas. En ce qui concerne Lyon, c'est facile. Entre guillemets, sur la scène nationale, c'est vrai, depuis 2006-2007, elles sont championnes.
Sauf contre Paris, quoi.
Mais il y a quand même quelques ligues des champions aussi, ce qui veut dire qu'en, sur la scène européenne, c'est du très très haut niveau. Avec cette année, encore une fois, une course pour un quatrième triplé, et elles sont en demi-finale. Elles ont gagné le match aller face à Chelsea 2-1. Ouais. Elles joueront le retour à Chelsea dimanche.
Il faut être très clair. Lyon, c'est la meilleure équipe du monde, hein. Faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas meilleur que l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est un fait. Le problème, c'est que c'est la meilleure équipe du monde, et l'écart est colossal. En France et même en Europe, les Wolfsburg, les Bayern qui mettent beaucoup d'argent par exemple, et d'autres équipes sont au final très loin aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais.
Allez, on va terminer. Juste une précision. En fait, Bernardo Silva n'était pas dans l'effectif des champions d'Europe portugais en 2016.
Comme quoi.
Merci
David Finzel.
Je savais, mais j'ai pas voulu vous corriger.
Moi, j'ai l'information de David Finzel.
Exactement.
Heureusement, David Finzel.
Il a vérifié.
Moi, j'ai pris Salim.
Et après,
j'ai fait le mec qui savait.
Non, mais après. David Finzel, après, il peut taper la dame.
Il y avait Cristiano Ronaldo. Je crois qu'il y avait Eder.
Vous croyez ? Ça, je crois qu'on s'en souvient aussi. Allez, autre partie.
Ah,
On vous propose une escale en Tanzanie, le pays qui accueille actuellement la CAN des moins de 17 ans. Mais la Tanzanie, qu'est-ce ? Un pays qui est dans le sud de l'Afrique, qui s'étend des sommets du Kilimandjaro aux eaux cristallines de Zanzibar, en passant par des villages Maasai et des parcs d'animaux sauvages.
Ah, c'est plus beau que Manchester.
Racontez-nous
ça, c'est sûr.
La Tanzanie.
Ah, magnifique. Vous avez tout dit. Ça m'a parfait résumé. Alors, j'ai pas vu le nord, malheureusement, mais Zanzibar, c'est extraordinaire. Et les parcs animaliers, évidemment, quand vous vous retrouvez à 2 mètres ou à 3 mètres d'un lion, ou d'un éléphant, ou d'une girafe, ou d'antilope, et franchement, c'est très bluffant. Et j'ai même nagé avec les dauphins. C'est pas beau, ça?
D'ailleurs, ils disent aujourd'hui qu'ils ont nagé avec les
dauphins. C'est ce qu'ils disent.
Ouais, j'ai vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux.
Salim, c'est aussi le pays du Big Five. Hein. Vous savez ce que c'est le Big Five?
Alors, je reconnais le nom.
À Tottenham.
Les 5 grands animaux africains.
Voilà, exactement.
Ah, comme quoi, j'apprends.
Et voilà. Et ben justement, on s'est amusé à le réunir, ce pays du Big Five, et à vous faire écouter ces animaux, voir si vous les reconnaissez. Allons-y.
Ah bah oui.
Un dauphin.
Ah oui.
Ah non, oh mince.
L'éléphant.
Bon, et qu'est-ce que fait ? Oui, ah. Bonne réponse, Dominique. Deuxième élément.
Un lion.
Une grenouille.
Un lion.
Le lion.
Il rugit.
Mais ah, c'est léopard, c'est léopard. C'est
léopard. La panthère.
Non plus.
La panthère.
Ah bon ? Bah, dans les Big Five, il y a le léopard.
Bah oui, ou la panthère.
Il a une grosse corne sur le nez.
Le rhinocéros.
Ah, rhinocéros.
Ah, c'est le bruit d'un rhinocéros.
C'est Laurent Salero qui a fait le mixage. Et alors, il nous trimballe comme il veut.
Eh bien, il barrette ou il barrit.
Voilà.
Ah, n'est-ce pas?
Okay. Il barrette.
Allons-y pour le
et
troisième.
Après, il dit shit. Hein.
Ouais.
Chut, pardon.
Ah, ça, c'est le lion.
Non.
Ah non, ah, ça c'est la panthère.
C'est le lion.
Ah, non, c'est le lion.
C'est le lion qui rugit.
Ah, le lion rugit.
Il rugit toujours. Vous vous souvenez de Daktari, de Clarence?
Je regardais pas ça.
Quatrième du Big Five.
Le ragondin.
Hippopotame.
Hippopotame. L'hermépelo, je dirais.
C'est l'hippopotame.
C'est l'hermépelo au réveil.
Non, c'est l'hermépelo.
Si, c'est l'hermépelo. C'est mon voisin. Moi, j'ai entendu
ça. C'est la panthère qui pantillonne.
Parce que dans ce Big Five, il y a un animal qu'on ne m'avait pas cité.
Le buffle.
Exactement.
Mais bien sûr, moi, je les connais, les 5 du Big Five. Croyez-moi, j'en ai vu à plusieurs reprises.
Le buffle. Le buffle, il fait quoi, le buffle?
Eh bien, il beugle, ou alors il mugit, ou alors il mufle. Il souffle, pardon.
Parce que mufle, c'est plus Hervé Penaud.
Il voit un beau collègue, Annie. Il y a un mufle dans ici, mais on ne dira pas qui, évidemment.
Ça sera Olivier P.
Voilà. Vous avez confondu, Olivier.
Le dernier.
Ça, c'est la panthère. La panthère léopard. Ou le léopard, il y a
léopard,
plusieurs
c'est léopard.
Oui, on a cherché les différences, c'est des différences de tâches, c'est des différences sur le... Et ben voilà, c'était le pays du Big Five, alors il n'y a pas que ce pays-là, parce qu'il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, des pays où on...
Annie, effectivement... vous voulez en dire où ils jouent dans quelle équipe?
Ben, vous savez, les éléphants, hein, on sait où ils jouent.
L'équipe nationale a un nom, l'équipe de la Tanzanie?
Oui.
Oui.
Et alors, David Finzel, au secours, parce que
si, mais en plus, j'allais vous le
dire, il nous l'a dit tout à l'heure, et ça m'a échappé. Alors, en tout cas, continuons sur l'Afrique, ça va nous revenir.
Oh oui.
Cette affiche de la finale qui se disputera entre la Guinée et le Cameroun.
C'est la CAN du 17, hein, alors, parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez dit depuis le début. La CAN du 17,
si,
donc
si,
les
cadets. Bien sûr que je l'ai dit, des moins de 17 ans, disais-je.
Et, Under 17.
Écoutons des cris, et ceux-là, vous allez les identifier peut-être. Les vainqueurs. Les vainqueurs.
Les Guinéens. Les Guinéens.
Le Cameroun.
C'est le Cameroun, ça.
Il y a aussi les Guinéens qui ont gagné. J'avais une chance sur deux.
Alors, justement, Hervé, la Guinée qui a battu le Nigeria par les tirs au but 10-9, alors que le Cameroun, qui était réduit à 10 en plus, a battu l'Angola par les tirs au but, là aussi 4-3, hein, des matchs qui se sont terminés des demi-finales sans rien. Est-ce que ce sont les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale, selon vous, vous qui êtes allé là-bas assister aussi à la compétition, vous n'avez pas vu que le Big Five?
Bien sûr, absolument. J'ai vu le Big Two, là, vous voyez. Mais c'est difficile à dire, parce que le problème d'une compétition en U17, c'est que vous alignez des matchs tous les trois jours, et parfois il y a des joueurs, soit qui commencent à se fatiguer terriblement au bout de trois matchs, quand il fait 40 degrés ou 35 degrés, quand vous jouez l'après-midi, par exemple, et ben vous avez une perte physique immense, et donc technique, hein, pas de fait, et vous retrouvez parfois avec des joueurs un peu plus costauds, un peu plus solides, qui se retrouvent au bout de la compétition. C'est ce qui s'est passé, parce que finalement, la Guinée et le Cameroun sont les deux équipes, je veux dire, les plus fortes physiquement, hein, qu'on a pu voir. On a vu le Maroc, par exemple, qui a explosé assez vite contre le Cameroun. Ce qui est très drôle, c'est quand je suis arrivé, tout le monde m'avait dit le Sénégal-Maroc était peut-être le plus beau match du premier tour, et on estimait que le Sénégal et le Maroc avaient peut-être les équipes les plus fortes de ce premier tour. Et au final, ils ont été éliminés dans leur poule par le Cameroun et la Guinée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel chez ces deux équipes qui était important par rapport aux autres, mais ça se joue sur vraiment très très peu de choses. Je crois qu'au bout d'un moment, le problème, c'est que les joueurs sont cramés, hein, parce qu'il faisait très très chaud, et dans des conditions aussi difficiles, bah, ça se joue à pas grand chose.
C'est une chaleur plutôt humide,
non,
humide.
Bah, oui, c'est quand même humide, et puis bon, mais il fait 35-40 degrés, surtout pour les équipes qui ont joué tôt l'après-midi. Après, vous jouez sur un synthétique, et j'entendais un Camerounais qui avait les pieds qui était sur une chaleur absolument incroyable. Ils cherchaient même s'ils pouvaient trouver d'autres chaussures pour pouvoir jouer. C'était pas évident. Mais ce qui est certain, c'est que les deux équipes se sont, bon, quand vous gagnez au tir au but comme ça, c'est que ça preuve quand même que le mental était présent. Et puis, finalement, si vous êtes en finale, il y a guère de surprise, parce qu'on peut pas dire, si vous voulez, qu'il y a eu un vol d'un côté ou de l'autre. Et de la part des Camerounais, c'est d'autant plus fort que vous jouez à 10. Et eux ont eu un autre désavantage des Camerounais, et on va après revenir sur le deuxième sujet, j'imagine, qui peut fâcher, c'est qu'ils ont perdu 3 joueurs avant le début de la compétition, qui n'avaient pas passé les tests IRM. Donc, ils se sont retrouvés à 18. Donc, ils pouvaient pas faire beaucoup de turnover, même s'ils ont pu, parce que comme ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs, ils étaient déjà qualifiés en qualité de premier. Donc, ils ont ça leur a permis un peu de tourner. Mais il y a des équipes qui n'ont quasiment pas tourné. Donc quand vous êtes sur 2 semaines à 3, 4, 5 matchs, ça commence à peser sur les organismes de jeunes joueurs.
Hervé, justement, il y a les polémiques autour de ces jeunes, ont-ils 17 ans ou pas, des rumeurs, des accusations de changement d'identité, de changement de date de naissance, en dépit de ces examens dont vous parlez, c'est le fameux test du poignet, oui, hein, que la CAF a généralisé. Est-ce que, par exemple, la Guinée, il y a 2 joueurs qui sont visés, Aboubakar Konté et Ahmed Tédiane Keïta, est-ce que selon vous la Guinée peut encore être sanctionnée?
Ah, ça me paraît compliqué quand même. J'ai vraiment du mal.
Parce que la CAF a dit qu'elle rejetait les recours jusqu'à présent.
Le recours était rejeté. J'ai lu aujourd'hui, alors j'en ai pas la preuve exacte, mais on va quand même en parler. J'ai lu apparemment que les Japonais, parce qu'en fait le Sénégalais, c'est les Sénégalais qui contestaient la victoire de la Guinée, hein, en expliquant qu'ils avaient utilisé 2 joueurs lors d'un tournoi U17 deux ans avant.
Au Japon,
avec d'autres identités, enfin d'autres dates de naissance. Donc, comme ces 2 joueurs étaient là, on dit ben voilà, donc ça prouve qu'il y a la triche, etc. Bon, là, il faudrait voir si véritablement la fédération japonaise envoyait les papiers aujourd'hui, mais je vois pas comment on pourrait changer ce qui s'est passé. Les demi-finales ont eu lieu, je vois pas comment on va arrêter ce tournoi alors qu'il y a une finale dimanche. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des soucis durant cette compétition, parce que là, on parle du cas de la Guinée, mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils les Sénégalais avaient déjà joué aussi les Guinéens, hein, lors du tournoi qualificatif. Donc à l'époque, ça posait moins de problèmes visiblement. Donc le souci, il y a eu aussi le Maroc. Le Maroc s'est plaint, le président Lechka s'était plaint du fait que les Guinéens avaient des joueurs, les Camerounais avaient des joueurs qui étaient plus âgés apparemment que ce qu'ils annonçaient. Maintenant, il faut aussi que chacun regarde et voit midi à sa porte. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en Afrique, il y a des problèmes avec les âges, surtout dans ces catégories d'âge. Donc, toutes les sélections sont visées. Pas plus la Guinée que le Cameroun, que le Maroc, parce que même les Marocains, si vous voulez, il y a 2-3 joueurs, il y avait aussi quelques doutes. Donc, c'est un vrai souci, mais en revanche, ça va être très, très important, mettons, pour la CAF, de faire quelque chose, parce qu'on peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il y
a beaucoup de polémiques. Mais il faut aussi savoir comment les joueurs sont sélectionnés. Parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc comment vous faites pour sélectionner des joueurs? C'est aujourd'hui, vous voulez sélectionner des U17 en France, vous allez voir en Ligue 2, en National, puis vous connaissez les tournois de jeunes, vous regardez la Gambardella et puis vous voyez des joueurs. Mais quand vous êtes dans un pays, il n'y a rien, vous faites comment? Donc c'est simple, vous regardez, alors il y a des sélections qui sont un petit peu faites à droite à gauche, vous connaissez des gens, et puis il y en a des gens qui viennent vous dire, j'ai un très bon joueur, vous allez voir, tu vas voir, oh, bon, on va le sélectionner, puis après ça peut prêter à toutes les magouilles, vous pouvez imaginer. Et puis à un moment, la personne vient, dit, vous avez à quel âge? Le sélectionneur est à quel âge? 16 ou 17 ans, lui il peut pas, le sélectionneur peut pas savoir l'âge du joueur.
Oui, c'est ce qu'il
dit. Donc c'est vraiment compliqué.
On y reviendra en tout cas, puisque la finale se déroulera donc
dimanche
entre la Guinée.
Une belle finale à voir.
Bien sûr, des sons et des interviews. Écoutez,
une belle finale à venir. Moi j'aime bien toujours les catégories de jeunes, même en Afrique, même si certains sont peut-être pas aussi jeunes que ça.
Espérons... Dimanche 21h30 temps universel pour avoir le résultat.
Et espérons qu'il y aura des buts, n'est-ce pas?
Espérons.
Oui là.
Mais évidemment. rendez-vous dans Mondial Sport. Allez, un dernier petit arrêt dans cette émission et un arrêt, eh bien, hommage pour finir. Nous voulions tirer un coup de chapeau, chapeau bas même, eh bien, devant un grand acteur, un grand comédien qui a disparu la nuit dernière et que on est nombreux à aimer ou à avoir aimé et apprécié dans ce studio. Et il s'agit, vous entendez le bruit cinéma, de Jean-Pierre Marielle.
On rappelle juste qu'il avait 87 ans, plus de 100 films au compteur, essentiellement des comédies, qu'il savait également être grave. Il était aussi élégant qu'éloquent. Il avait pour compagnons de route les plus grands. On va citer Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, tous connus dès le conservatoire. Il adorait les cancres, et ça, ça nous plaît, la paresse. Il se définissait comme un traînard contemplatif. C'est sur ses silences qu'on juge un acteur, disait-il dans Les Grands Ducs, un film de Patrice Lecomte en 96. Jean-Pierre Marielle, et c'est pour ça qu'on en parle, aimait le vélo, la boxe et un peu le foot. Il avait joué dans Comme la Lune en 77, film culte pour certains, et j'en fais partie. Il y incarnait, comme souvent, le beauf ultime, un Français très moyen, très amateurs de foot, et le foot qu'on écoutait à cette époque à la radio, Annie.
Et justement, il avait le rôle eh bien, d'un supporter pendu à sa radio pour écouter un match. Un supporter un très caricaturé, écoutez.
Pourquoi t'as pas changé les piles, on n'entend rien.
Je m'en sers jamais.
Ouais, allez, ça y est, c'est reparti.
Voilà, Patachio,
Chiron déplié. Allez, 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 mais pense. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est ça, la Gomez. Ouais. Bien joué. Bien joué. Oh, dis donc, quand il s'y met, Clovac. C'est de la haute voltige, tu verras un peu ce travail, c'est Copa et Pelé réunis. Ouais, allez. Centre. Ouais. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il en met les cheveux, Izzy Wagdan. Oh, dis donc, le cador, il fait ce qu'il veut. Paf. 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 Oh, dis donc. Oh, ça, c'est du beau boulot. Le nom de Gomez, il est tout seul. Mais il va marquer. Ben oui, il est tout seul, mais pourquoi il tire pas? Mais il tire, bon Dieu, tire!
Eh bien voilà.
Comment tu veux qu'on remonte? On en a deux dans les jumelles. Et bonsoir.
Voilà la voix de Jean-Pierre Marielle qui incarnait un supporter.
Juste après, il y a une scène où il a un peignoir violet où ça mitraille sec. Je peux vous dire que c'est... Pendant une heure, le film dure une heure et demie, mais pendant une heure, c'est du très 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 haut niveau.
C'est un film de 77,
c'est un film de Joël Saria.
Oui, comme les galettes de Pont-Aven.
Voilà, il est resté aussi célèbre. Un garçon fantastique, très grand. Je l'ai croisé un jour à un concert de Christophe, le chanteur, Jean-Pierre Marielle, à l'Olympia. Il est d'une élégance incroyable. Il va nous manquer, vraiment.
Il était encore il y a quelques semaines aux différents combats de boxe organisés par Canal et tout ça. Il était féru de boxe également. Mais bon, voilà, Jean-Pierre Marielle, c'était une voix et c'est vraiment quelqu'un d'unique qui est parti hier.
Et le football au cinéma, Dominique, c'est pas toujours facile hein, de réussir à...
La boxe est beaucoup plus cinématographique que le foot. Il y a très très peu. Il y a un film de John Huston sur le foot qui est pas trop mal.
Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Dewey.
C'est à nous la victoire.
Non ouais, mais sinon c'est plutôt...
Ou avant l'arbitre
Jean-Pierre Mocky, mais c'est souvent quand même le sommet, c'est quand même Raging Bull de Scorsese sur la boxe.
Même Rocky, hein.
Le Rocky de Sylvester Stallone, mais l'histoire de Jackie LaMotta par Scorsese avec De Niro, c'est extraordinaire.
Ouais. En tout cas, Jean-Pierre Marielle avec cette incroyable voix, voilà ce qui refermait aujourd'hui Radio Foot International. Et c'est la fin de cette émission déjà.
Oh, déjà. Hein,
bon, on vous a fait voyager.
Vivement la prochaine.
On vous a fait voyager au pays du Big Five.
Magnifique.
Annie, la Tanzanie, c'est les étoiles du...
C'est les Taifa Stars.
Les Taifa
Les étoiles du Kilimanjaro. Merci David Finzel. Il va y avoir double ration de pâtes pour Finzel ce soir.
Ah, il est incroyable ce David.
Il connaît tout.
Merci aussi à Pierre Guérin qui aujourd'hui nous a aidé à préparer l'émission, Laurent Salerno qui était à la réalisation, et on vous dit à demain. Ce sera évidemment le Café des Sports. Merci à tous.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.